notre invité ce matin dans le 8-30. Teddy Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-délégué dans les Alpes du Sud et sur la Côte d'Azur de SOS Homophobie. Bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est les Alpes du Sud, les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence. Avec tout d'abord alors, ce travail de vulgarisation que je vais vous demander. On parle souvent de la communauté LGBTQI+. Et de plus en plus, les gens s'y perdent. LGBT, on parvenait à savoir ce que c'était.
C'est l'orientation sexuelle.
Voilà. QI+.
Q, c'est queer. Mm-hmm. Donc, c'est le fait d'être hors des cases, en fait. On peut, un garçon peut très bien mettre du maquillage et être hétéro, en fait.
Mm. Une femme, mettre des vêtements un peu plus masculins.
Totalement.
Et être hétéro ou cis, aussi, ce qu'on
Moi,
dit
par exemple,
aujourd'hui.
Dans ma garde-robe, je mets des vêtements à la fois féminins et masculins.
Mm-hmm. Queer.
Queer, exactement.
Voilà. Le I+.
Le I, c'est les personnes intersexes.
Mm-hmm. C'est-à-dire ?
C'est ceux qui naissent, en fait, avec une vulve plus petite, un plus grosse, ou un pénis plus petit. Mm-hmm. Ils sont, voilà, entre deux.
Ce qu'on appelait les hermaphrodites à l'époque.
Alors, les hermaphrodites sont des escargots, pas des êtres humains. C'est le terme médical, mais voilà, aujourd'hui, on appelle ça des personnes intersexes. Il faut savoir que 12 000 naissances en France, enfin 12 000 naissances de personnes intersexes en France, c'est quand même un chiffre énorme.
Mais vous m'avez reprise, et justement à juste titre, quand je vous ai dit hermaphrodite, c'est le nom qu'on utilisait, vous m'avez dit oui, mais on parle d'escargot là. Mmh. Il y a quand même eu des avancées alors.
Beaucoup d'avancées. C'est comme par exemple la transsexualité. Alors non, la transsexualité, ça n'a rien à voir avec la sexualité, on parle de genre, de personnes trans, de personnes transgenres en fait. Donc oui, j'irais qu'avant, enfin, autrefois, les médecins parlaient à la place des patients, ou même pas, en fait, parce qu'ils n'étaient pas malades, à la place des personnes concernées. Et aujourd'hui, les personnes concernées ont plus la parole. Du coup, le vocabulaire peut évoluer et s'adapter au mieux.
Avant, il fallait être soit homme, soit femme. Il fallait choisir, même parfois un peu trop tôt dans la vie d'un enfant.
Bien sûr.
Devait choisir, ce qui provoquait d'ailleurs plusieurs difficultés par la suite dans la vie d'adulte. Oui. Aujourd'hui, la société accepte en fait, que ce statut d'homme ou de femme n'existe pas.
Oui, la société accepte.
Le tolère ?
Je dirais pas tolérer. Je dirais que tolérer, c'est quand même lourd, quand même. On est entre deux, quoi. On ne sait pas. Je dirais qu'il y a de l'acceptation et il y a plus de bienveillance. Voilà. Il y a plus d'informations de la part des associations, de la part de. Oui, des associations. Les associations sont complémentaires et travaillent main dans la main avec l'État. Mais il y a un travail collectif.
Et d'où aussi l'objet de cette invitation aujourd'hui, Teddy Reynaud, parce que vous le dites, il y a le travail des associations, mais aujourd'hui, le travail des associations ne se fait plus seul. C'est-à-dire qu'on vous a vu, par exemple, aux côtés du procureur de Gap, Laurent Pouille. Ce n'est pas la première fois qu'on vous voit à ses côtés.
Non.
Il y a des actions qui sont menées très souvent avec le parquet de Gap. Donc très récemment, c'était pour une formation des professionnels du droit, et pas que ce soit la gendarmerie ou la police. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait, justement, avec la justice ? Et dans le 04 et dans le 05, pour avancer sur ce sujet.
Alors, donc pour revenir sur la formation, enfin la sensibilisation qu'il y a eu le 8 mars, rappelons, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, donc c'est une journée symbolique. On a eu c'est la première juridiction française à organiser en son sein une telle action de sensibilisation, donc portée par le procureur de GAF, Laurent Courry, et la présidente Sophie Boyer, associée aux associations SOS Homophobie, auxquelles je fais partie, et FLAG. Pour sensibiliser, comme vous l'avez dit, greffiers, magistrats, avocats, la PJJ, SPIP, ils ont été intégrés. Et quand on est en ruralité, même qu'on est en fait dans tous les pays, on a besoin d'informations, et surtout quand on est en contact directement avec les personnes. Je tiens à rebondir et dire qu'également, on a donc mis en 2021 un partenariat en place avec le procureur de Gap pour améliorer les plaintes judiciaires, mais également aussi en place ce même partenariat avec le substitut du procureur Maxime Gomuchon de Digne-les-Bains. Et puis Grasse également, la juridiction de Grasse et de Nice.
Oui.
Pour
entre dans la boucle.
Voilà.
Pour que les
signalements.
Voilà, que ce soit accéléré, que ce soit pris en compte un peu plus rapidement. Est-ce que justement, pendant cette journée de formation auprès des professionnels du droit et des forces de l'ordre, vous avez constaté une sorte de manque d'information?
Oui, les retours. Déjà, il faut le dire qu'on a eu beaucoup de retours et de bons retours de la part de toutes les personnes présentes qui ont pu se libérer. un retour bienveillant et on sentait vraiment leur manque d'informations, en fait, sur le vocabulaire notamment. Par exemple, pour vous donner un exemple, on a projeté une photo d'une actrice après la montée des marches à Cannes. Mm-hmm. Sur son compte Instagram, elle a publié donc une photo de son talon et une photo de son pied après. Et son pied était défiguré. Donc, ça vous montre le sexisme, en fait, lié à une société hétéronormée et patriarcale. Mm-hmm. Les femmes, pour être un petit peu... pas plaire aux hommes, mais se dire, je dois être parce que, je suis une femme et je dois porter des talons parce que la société me l'impose, les souffrances que je me donne.
Une société hétéronormée, mais de façon masculine, ce que vous êtes en train de dire. Même vous êtes en train d'élargir sur droits des femmes aussi.
Totalement. Non. Voilà, centré sur la parole des hommes, de l'homme, en fait. Mais voilà, on évoque souvent les salaires, la diminution des salaires des femmes. Enfin, en 2023, c'est énorme que les femmes soient sous-payées.
Alors revenons sur la communauté LGBTQI+. Mais en tout cas, on sait que vous êtes aussi un défenseur.
Bien
mais
sûr.
Est-ce que justement vous parliez des professions, est-ce qu'il y a encore de la discrimination professionnelle en raison de son orientation sexuelle dans les Alpes du Sud? Est-ce que ça arrive encore? Et même plus largement, quel est le constat que vous pourriez faire aujourd'hui dans les Alpes du Sud?
Je dirais que ce qu'on a mis en place permet d'apporter une information. Notamment quand on va déposer plainte, enfin, on sait qu'il y a un suivi avec l'association qui peut se constituer partie civile, qu'il y a cette amélioration, enfin, il y a ce partenariat qui est fait avec les procureurs.
Comment ça se passe d'ailleurs? Une personne est victime, dépose plainte, qu'est-ce qui se passe?
Une personne dépose plainte, ensuite donc, sa plainte est instruite, et le procureur, référent discrimination, c'est comme ça qu'il est appelé, informe l'association. Ensuite, la commission soutien juridique de l'association, il y a un relais où également, quand une victime informe, le procureur informe l'association avec beaucoup de bienveillance. Et si la victime contacte notre association par la ligne d'écoute, nous, ensuite, et se dit, géocalise un peu, je vais porter plainte et j'habite, exemple, à Gap, nous, on contacte le procureur. Il y a un lien qui se fait direct, étroitement lié. Ça, c'est un fait. On a également mis en place avec le CDAD, donc Madame la Présidente...
le Conseil départemental d'accès au droit
des Hautes-Alpes, avec Madame la Présidente Sophie Boyer et la coordinatrice du CDAD Marion Candy, une permanence pour, sujet au LGBTI-phobie, une permanence d'orientation des victimes et transmission de parole. C'est une première dans le département.
Donc ça, c'est dans le 05 et dans le 04 aussi. Vous allez aussi multiplier les actions de ce type pour le CDAD, par exemple?
On manque de bénévoles. Donc actuellement, c'est compliqué. À terme, oui. Mais actuellement, c'est compliqué. On fait au mieux. On ne promet pas, mais on donne notre temps dès que le temps.
En tout cas, si je vous comprends bien, pour qu'il y ait un peu plus de bienveillance, il faut beaucoup plus d'informations.
Oui, d'informations, de formation, de sensibilisation, pour élargir.
D'où ce guide pratique, troisième guide pratique contre les LGBTI phobies, qui est sorti, publié par SOS Homophobie, 45 fiches thématiques.
C'est le troisième.
Troisième, alors c'est à destination de qui? De tout le monde? Des
tout
professionnels?
Des professionnels, juristes, directrices des ressources humaines, personnel éducatif, commissariat, brigade, enfin toutes les personnes qui sont en lien avec
le public. On peut s'en saisir pour avoir des réponses sur quoi?
Surtout, que ce soit par exemple le don du sang.
Alors précisons, ça fait depuis peu de temps, vous allez me préciser certainement la date, mais auparavant, on se souvient que les hommes homosexuels ne pouvaient pas donner leur sang, ce qui n'était pas le cas des femmes lesbiennes qui pouvaient tout à fait le donner.
Oui, un arrêté du 11 janvier 2022 qui stipule que la référence sur l'orientation sexuelle dans les critères de sélection des donneurs de sang n'est plus visible, en fait. Donc, qu'on soit de n'importe quelle orientation sexuelle, on peut donner son sang. Et ça, c'était primordial. C'est vraiment... c'est primordial et ça permet de mettre une... que toutes les personnes soient égales, égaux.
C'était un petit peu étiqueté les hommes gays comme potentiels vecteurs de VIH.
Totalement. C'est une inégalité, c'est une discrimination. Et je trouve du coup que... maintenant... qu'on soit lesbienne, gay, bi, trans, qu'on soit une personne, en fait, on peut donner son sang, bon, en 2022, donc c'est quand même assez tard.
Mais on peut, en tout cas, on va vers plus de bienveillance.
De bienveillance.
Vous avez de l'espoir?
J'ai beaucoup d'espoir. Je suis une personne plein d'espoir et je pense que quand on milite, ou même quand on est une personne, il faut garder l'espoir, ça aide à avancer.
Merci beaucoup, Edirene, d'avoir été avec nous ce matin. SOS Homophobie, qui, d'ailleurs, peut-être qu'on peut donner vos coordonnées
bien
pour
sûr.
Toutes les personnes qui voudraient justement vous joindre pour une quelconque information.
Elles vont sur nos sites SOS Homophobie pour des interventions en milieu scolaire. Vous cliquez dessus et ensuite vous remplissez un document qui permet d'être en contact directement avec la commission, les personnes concernées, ligne d'écoute, avec la ligne d'écoute. Donc, la ligne d'écoute, c'est le 01 48 06 42 41. Vous avez donc, les IMS. Vous avez un chat écoute pour les personnes qui sont victimes et qui ne peuvent pas appeler. Il y a tout un tas de ressources qui permettent d'apporter de l'information. Et je tiens aussi à préciser que depuis 2021, l'association a mis en place en ligne, une plateforme qui s'appelle Aide en ligne. C'est sous forme de questions-réponses. Qui permet d'informer sur toutes les informations qu'on a besoin, qu'on peut retrouver également dans le guide pratique.
Eh bien, c'est parfait. Toutes ces coordonnées seront bien sûr à retrouver sur le podcast d'Alper. Merci beaucoup,
Edirene,
d'avoir été avec nous ce matin de SOS Homophobie.